Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Violaine Gély, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Fayard une très belle biographie de Charlotte Delbault. Et je voulais aujourd'hui revenir sur cette biographie qui a certes une légitimation calendaire, puisque 2013 est l'anniversaire du centenaire de la naissance de Charlotte Delbault. Mais au-delà, je voulais vous demander, Violaine Gély, pourquoi lui avoir consacré une biographie? Qu'est-ce qui vous a fait connaître Charlotte Delbault? Et pour ceux qui ne connaissent pas Charlotte Delbault, qui est-elle?
Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Donc, je vais commencer par mon histoire, c'est-à-dire que j'ai rencontré Charlotte Delbault par ses livres, bien sûr. Je ne l'ai jamais rencontrée physiquement, sans la connaître. C'est-à-dire que c'est une amie qui m'a offert ses livres en me les présentant comme des livres un peu de consolation. Et ça m'a surprise parce que c'est quand même des récits, sa trilogie sur Auschwitz, c'est quand même des récits concentrationnaires. Donc, j'ai ouvert ça avec beaucoup d'étonnement et en fait, j'ai adoré. Je pense qu'on ne peut tomber qu'en amour pour ce texte-là, pour cette puissance de l'écriture, pour cette force d'évocation. Et comme à la base, moi, mon métier, c'est journaliste, je me suis tout de suite dit, mais qui est cette femme ? Qui est-elle ? Bon, c'était avant Internet, c'était fin des années 80. Et bien sûr, donc, je ne pouvais pas aller voir sur Wikipédia. Et j'ai cherché un peu partout, je n'ai rien trouvé. Internet est arrivé, je n'ai rien trouvé. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, bah, écoute, puisque tu ne trouves pas, va chercher. En bonne journaliste, je me suis dit, allez. Donc, je suis allée trouver son ayant droit, qui m'a ouvert ses archives personnelles. J'ai travaillé avec un historien qui est Paul Gradvol, qui, lui, m'a ouvert toutes les portes des archives, comme font les historiens-chercheurs. Et petit à petit, à nous deux, on a réussi à découvrir qui était cette femme. Et vraiment, on a eu envie de la sortir de l'ombre et de la présenter au plus grand nombre pour donner accès à ses livres aussi.
Alors, paradoxalement, Charlotte Delbault est plus connue à l'étranger, et notamment aux États-Unis.
Oui, elle est très connue aux États-Unis. Il y a une vingtaine de thèses qui lui ont été consacrées. En France, vous dites Charlotte, justement, mais vous dites Charlotte Delbault, on vous dit Charlotte qui, quoi. Oui. Donc, pour faire très court, c'est une jeune femme qui est donc née en 1913, qui était dans sa jeunesse membre des jeunesses communistes, dans la vie politique du Front populaire. On est en 35-36. Son mari, Georges Duda, qui est un militant fervent du PC, ils sont tous les deux... Elle est la secrétaire de Louis Jouvet.
Oui, elle, c'est une femme qui travaille au théâtre. Je ne sais pas si on peut dire une femme de théâtre, mais c'est une femme qui travaille au théâtre et avec Louis Jouvet.
Oui, et pour moi, c'est une femme de théâtre. Elle le prouve après dans ses écrits. Le théâtre l'habite, les personnages du théâtre l'habitent. Donc, elle est secrétaire de Louis Jouvet. Lui est journaliste. Ils vivent ensemble. Voilà, la vie est belle. Et puis, la guerre arrive et ils rentrent tous les deux dans la clandestinité. Ils sont arrêtés.
Comme de nombreux communistes.
Comme de nombreux communistes. Ils font partie du réseau Politzer. Voilà. Dudac fait le lien avec les écrivains non communistes et communistes. Ils participent de ce réseau-là. Et en mars 1942, ils sont tous les deux arrêtés par la police française, qui les défère ensuite à la Gestapo. Georges Dudac est fusillé en mai. Et Charlotte, elle, après un passage à Romainville, est déportée à Auschwitz dans le convoi qu'on va appeler le convoi du 24 janvier 1943, le seul convoi de déportés politiques.
Et donc non-juifs.
Non-juifs à Auschwitz. C'est, dans l'histoire de la déportation, c'est le seul cas. On n'a pas compris pourquoi, on ne sait toujours pas pourquoi. A priori, c'est une erreur de l'administration nazie. Elles auraient dû aller à Ravensbrück, elles se retrouvent à Auschwitz. Et donc, elles vont passer, on est donc en janvier 1943, elles seront libérées en avril 1945. Et donc, elles vont passer, partager ces 3 ans-là entre Auschwitz et Ravensbrück ensuite.
27 mois.
27 mois, exactement. Elles partent à 230.
Exactement.
Et elles reviennent à
49. Elles sont 230 déportées politiques. Oui. Et elles reviennent à 49.
Elles reviennent à 49, ce qui est un taux de survie assez exceptionnel.
Énorme.
Oui. Assez exceptionnel.
Le camp d'Auschwitz et de Ravensbrück. Alors, à quoi doivent-elles ces 49-là leur survie, Violaine Gély? Et qu'est-ce que Charlotte s'engage à faire par son œuvre?
Alors, la survie exceptionnelle de ces 49, on la comprend très bien, justement, en lisant Delbault. Parce que ce sont des femmes, alors il faut se remettre dans l'époque, ce sont des jeunes femmes, elles ont 25 ans, 27 ans, enfin la plus jeune a 16 ans.
Oui.
Ce sont des militantes, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont accepté le risque de la mort, de la torture, de la déportation.
Des consciences politiques.
Des consciences politiques, elles sont habitées par un idéal. Donc, ce qui n'est pas le cas des millions de Juifs qui n'ont pas compris ce qui se passait. Elles savaient, elles prenaient ce risque-là. Donc, ça donne une résistance au départ sans doute plus grande. Et puis, surtout, ce qu'on lit dans Delbault, c'est que, moi, je pense que ça prend naissance dans le militantisme, mais c'est que elles ont créé un groupe.
Une solidarité.
Incroyable. Et quand on lit Delbault, on ne lit pas Charlotte Delbault à Auschwitz.
Non.
On lit les femmes du convoi à Auschwitz.
D'ailleurs, on ne lit pas, et peut-être nous pourrions accentuer ou approfondir cette question, on ne lit pas ce qui arrive à Charlotte, littéralement, puisque, au fond, dans cette trilogie magnifique qui s'appelle...
Auschwitz et après.
Charlotte va mettre en scène autant de personnages et à peine elle ou elle sous forme de pseudonyme.
Alors, soit elle utilise un pseudonyme dans son œuvre ou elle s'appellera Françoise. Dans toute son œuvre, elle est Françoise et quand elle parle de Georges Dudac, son mari, elle l'appelle Paul. Donc, soit elle se met en scène sous le nom de Françoise, soit quand elle se met en scène au jeu... c'est parce que, justement, ce qui lui arrive à ce moment-là est emblématique
des
de
autres.
Cette solidarité féminine. Par exemple, elle va raconter dans le premier tome qui s'appelle « Aucun de nous ne reviendra », elle raconte que quand elle est atteinte du typhus, elle va mourir de soif parce qu'elle ne peut plus rien avaler. Et ses compagnes donnent toute leur ration, alors qu'elles mangeaient rien, mais le peu qu'elles avaient, elles l'ont mis en commun pour qu'elles puissent avoir un seau d'eau, acheter un seau d'eau à l'une des jardinières qui va leur apporter. Et voilà, donc elle ne se met en scène que quand elle témoigne de cette solidarité et de la sororité, moi je dirais, même si le mot n'est pas beau, mais qui avait entre ces femmes-là.
Et vous, Violaine Gély, dans cette biographie que vous consacrez à Charlotte Delbault, ce que vous avez eu envie avec Paul Gradvol de mettre en place, c'est précisément le récit d'un témoignage où la sororité, où le rapport à la solidarité des femmes entre elles prend toute sa place.
Oui, il y a deux choses qu'on a voulu mettre en avant et qui me semblent témoigner de l'importance de Delbault dans la littérature concentrationnaire, de sa place, elle est la seule, d'abord elle est la seule femme à avoir transformé cette expérience-là en littérature. Elle n'est pas dans l'expérientiel, elle n'est pas dans le témoignage, elle est dans la littérature. Elle parle de ces femmes-là et surtout, elle parle, elle n'analyse pas. Elle n'est pas là pour dire voilà ce qui se passait, pourquoi on était là, etc., le bien, le mal. Non, elle raconte avec ses mots, elle parle de la chair, elle parle du corps, elle parle des sensations, elle parle des émotions. Elle n'est pas du tout dans l'analyse. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est ça. C'est que ces femmes-là, elles sont passées par le pire. Et Delbault le raconte tellement bien qu'à mon avis, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle n'est pas lue aujourd'hui.
Parce que
c'est encore tellement
difficile.
Sa petite
chanson est trop émouvante.
Oui, moi je pense qu'elle provoque chez le lecteur quelque chose de l'ordre qui peut être du répulsif, tellement c'est fort et tellement ça parle, ça nous parle à notre chair à nous. Par exemple, vous avez le cinéaste cambodgien Ritipan.
Oui, Ritipan.
Ritipan,
magnifique.
Il dit Charlotte Delbault, elle m'a parlé à moi, petit garçon, enfermé dans les camps Khmer. C'est-à-dire qu'elle parle à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'elle peut être violente, mais que cette violence-là est nécessaire.
Violente et incroyablement intime.
Très intime.
Alors, il y a deux scènes, peut-être pour donner envie de lire à la fois votre biographie et également les livres de Charlotte, sur lesquels je voudrais que nous nous arrêtions un peu. D'abord, c'est sans doute le récit dans mesure de nos jours de l'arrivée de Charlotte dans cette maison de poupettes, je
poupette,
crois.
Oui.
Est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs de France Culture toute l'émotion qu'il y a dans ce récit ?
Alors, il faut savoir que Mesure de nos jours, qui est le troisième tome de la trilogie, s'est construit 20 ans après le retour d'Auschwitz. C'est-à-dire oui. qu'elle est allée voir ses compagnes, quelques-unes de ses compagnes, et elle est allée leur dire « Et toi, qu'as-tu fait ?» Ça devait s'appeler « Et toi, qu'as-tu fait au retour ?» Et donc, c'est ce récit-là qu'elle nous fait dans Mesure de nos jours. Et ce qu'elle montre, page après page, même si certains récits sont plus légers que d'autres, ce qu'elle montre page après page, c'est qu'en fait, les revenantes, comme elle dit, ne sont pas revenues. Et qu'en fait, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, à celle qui lui dit « Tout le monde croit que je suis revenue d'Auschwitz, mais en fait, j'y suis morte aussi. » C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas du tout remises dans la vie. Elles n'ont pas été écoutées, elles n'ont pas été entendues quand elles ont osé parler. Certaines n'ont pas osé parler. Celles qui l'ont fait, ça n'a servi à rien. Et c'est la grande détresse de ces femmes-là qui ressort de Mesure de nos jours, qui est de dire « je suis seule avec ce que j'ai vécu parce que les autres n'étaient pas là ».
Et puis, dans Mesure de nos jours aussi, ce qui me paraît absolument extraordinaire, c'est « elles pensaient toutes que le pire était derrière elles ». Et la grande thèse de Charlotte dans Mesure de nos jours, c'est que le pire est à venir et qu'elle ne pouvait pas le soupçonner. Ni les unes ni les autres.
Oui, absolument. Et Charlotte le dit, le tome 2 de sa trilogie s'appelle « Une connaissance inutile ». C'est-à-dire, ce qu'elles ont vécu à Auschwitz ne leur a pas servi. C'est une connaissance qu'elles ont reçue bien malgré elles et qui s'avère vaine parce qu'elle n'empêche rien.
Et elle ne sert à rien.
Elle ne sert à rien.
Tout ce qui a été appris au camp et au camp d'extermination, comme dans certains camps de concentration, ne sert à rien dans la vie normale.
Elle dit que ça ne sert à rien dans la vie quotidienne de savoir si celui-là vous donnera son pain ou pas. Ça ne sert à rien parce que du pain, on entre dans une boulangerie. Et voilà. Donc ça ne sert à rien de savoir que face au pire, on peut justement survivre et s'entraider. Et c'est Mesure de nos jours, c'est un livre extrêmement fort. C'est vraiment cette parole parce qu'elle est... Elle peut faire peur, elle nous renvoie aussi à notre humanité et à ce que nous, on aurait fait et comment on aurait pu survivre. Et Poupette, notamment dans Mesure de nos jours, moi ce que j'aime beaucoup, c'est celle qui dit « Après Auschwitz, plus jamais je n'aurai froid » et qui du coup part s'installer à Porto Rico
pour
avoir chaud tout le temps. L'œuvre de Charlotte aussi, c'est le froid, c'est la faim, c'est la soif et comment on combat ça.
Et c'est nous faire saisir le froid.
Oui.
Voilà.
Le froid, raconté par Delbault, le froid, vous le ressentez,
mais oui, c'est
vous
ça.
Y êtes.
C'est
quoi.
Ça, c'est ça. C'est un rapport intime.
Ah oui, oui, vous êtes dans ces appels, les pieds dans la neige avec le vent glacial, il fait moins 20 et vous êtes presque nu dans la neige, debout pendant des heures et vous y êtes avec elle, quoi.
Très clairement.
Ça, c'est le talent de Delbault.
Alors, si votre ouvrage a un tel intérêt, c'est qu'il nous invite à reprendre et à reparcourir les œuvres de Charlotte Delbault, qui d'ailleurs, au fur et à mesure, sont de plus en plus étayées par rapport à ce qu'on a pu lire dans les années 80. Et puis aussi, vous y parlez, vous, Violaine, de Charlotte et de ce qu'elle a tué dans ses ouvrages, la plupart du temps. Et là, j'aimerais attirer l'attention de nos auditeurs sur cette scène du début que vous racontez admirablement, c'est-à-dire la mort de Georges.
Oui, Charlotte a eu cette, cette grâce. Alors en même temps, c'est aussi une malédiction sans doute, mais pour une raison un peu inconnue, le matin même du jour où son mari, donc qui a 27 ans, va être fusillé au Mont Valérien, elle a eu l'autorisation de lui dire adieu. Elle a eu une heure avec lui dans sa cellule.
Avec lui, après avoir été torturée, donc avec lui.
Oui, lui a été très torturé. Elle, a priori, selon ce qu'on a découvert, n'aurait pas été torturée. Elle a été mise au secret, elle a été enfermée, elle a été psychologiquement torturée, mais elle n'a pas, il n'y a pas eu de coup. Alors que
sévices sur le corps.
Voilà. Alors que George a été très vraisemblablement énormément torturé, et donc elle le retrouve à ce moment-là, et ils savent tous les deux que c'est le dernier rendez-vous. Et c'est une scène fondatrice dans la vie de Charlotte, évidemment. C'est pour ça qu'on a voulu ouvrir le livre avec cette scène-là, pour dire que c'est là-dessus que repose et sa vie et son œuvre.
Alors, c'est une ouverture paradoxale parce que c'est à la fois magnifique et en même temps, la scène est tellement dure qu'on a envie de fermer le livre aussi. Donc, je suis là pour dire qu'il faut poursuivre la lecture après
oui,
cette scène.
Parce que voilà, j'ai vraiment voulu qu'on ouvre avec cette scène parce que pour moi, c'est la scène fondatrice de toute cette œuvre et de la vie entière de cette femme qui va survivre à son mari qui meurt en 85. Donc voilà, elle lui aura survécu longtemps. Et puis moi, j'avais aussi envie, même si on a très peu de choses sur lui, de rendre hommage à cet homme, à ce jeune homme, 27 ans. Voilà, cette génération-là, ils ont tout donné. Et il dit adieu à la femme qu'il aime en lui disant « Mais tu verras, on va gagner, ça vaut le coup, je meurs pas en vain. » Évidemment, ça nous renvoie, nous, à nos histoires, à nous, à dire adieu à l'homme qu'on aime et à poursuivre sans lui. Et j'avais envie d'accrocher le lecteur avec cette émotion-là.
C'est sur cette émotion que nous allons clore cette émission. Violaine Gelly, je vous remercie.
Merci à vous.
J'invite donc les auditeurs de France Culture à relire ou à lire les œuvres de Charlotte Delbault et cette très belle biographie de Violaine Gelly et de Paul Gradvol. Le dernier numéro de Raison Présente s'appelle « Émancipation plurielle », quelque chose dont Charlotte Delbault était la spécialiste. Je remercie Véronique Villa et Pierre Mine qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.